Excellent réveil. Si vous vous levez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République démocratique du Congo, annoncé vainqueur cette nuit par la commission électorale aux dépens de l'autre opposant dans le pays. Ambiance et analyse dès le début de ce journal grâce à notre correspondant en RDC que nous rejoindrons.
Jusqu'à 3 mois de prison ferme pour des casseurs de l'Arc de Triomphe proches de l'ultra-droite. Ils étaient jugés hier à Paris. Nous étions à l'audience. Compte rendu à venir.
Dans ce journal aussi, vous entendrez le vice-président de l'Association des maires de France. Il refuse de participer à l'organisation du débat national pour répondre aux gilets jaunes. Le Premier ministre pourtant le demande au maire. Dans un quart d'heure par ailleurs, Frédéric Seil se demandera dans son billet politique s'il faut un débat sur le débat.
Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, est jugé dans la capitale belge à partir d'aujourd'hui. Il nie les faits, vous le comprendrez.
4 personnes étaient mortes lors de cette fusillade en 2014. Et puis Tintin a 90 ans et aucun descendant sur demande express de son créateur Hergé. Pour le moment, cela fonctionne encore et cela rapporte surtout. Zoom sur cette saga dans 10 grosses minutes. Et l'on commence donc par cet espoir, l'espoir d'un tournant démocratique en RDC avec la victoire annoncée de Félix Tshisekedi. La commission électorale nationale l'a reconnu vainqueur de la présidentielle cette nuit. Félix Tshisekedi était l'un des opposants au régime de Kabila. Il l'emporte donc officiellement avec plus de 38% des voix devant un autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. Lui évoque ce matin un putsch électoral. Nous y reviendrons. Mais d'abord, quelle ambiance en République démocratique du Congo, qui tourne donc ce matin et pour au moins 4 ans la page Kabila, au pouvoir depuis 17 ans. Bonjour Anthony Fouchard.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture en République démocratique du Congo. Anthony, comment les résultats ont-ils été perçus par la population congolaise ?
Et oui, les habitants ont veillé toute la nuit en attendant les résultats de la présidentielle. Et d'ailleurs, vous l'entendez sûrement derrière moi, l'annonce a été accueillie par des cris de joie, puis très rapidement suivie de scènes de liesse. Les gens ont commencé à descendre dans les rues sous le regard de la police déployée en très grand nombre en brandissant des portraits de Félix Tshisekedi.
En tout cas, je vois un nouveau vent venir, je vois une autre forme de leadership venir encore une fois et un autre espoir. Wow.
Personne ne croyait que Joseph Kabila, au pouvoir depuis 17 ans, allait passer la main aussi facilement. En tout cas, la joie ici a été éphémère. Maintenant que le jour s'est levé, tout le monde attend les prises de parole des différents leaders politiques.
Ah oui, car Anthony, il faut le préciser ce matin, Félix Tshisekedi n'est pas le vainqueur qui était attendu.
Et non, les observateurs du scrutin, notamment les catholiques, avaient affirmé à plusieurs diplomates occidentaux que le vainqueur était Martin Fayoulou, l'autre opposant. D'ailleurs, l'écart de voix entre les deux est minime et pourrait être sujet à contestation dans les heures à venir. Fayoulou a déjà dénoncé une forfaiture qui ne reflète pas, selon lui, la vérité des urnes. Le régime de Joseph Kabila ne pouvait de toute façon pas revendiquer la victoire. Le score qu'ils ont fait a été trop faible. Eh bien, ils ont donc préféré négocier. D'intenses tractations ont eu lieu depuis plusieurs jours avec le camp Félix Tshisekedi. On ignore encore ce qui a été consenti ou promis, mais une chose est sûre, si Tshisekedi incarne bel et bien l'alternance, ce n'est pas la fin du clan Kabila.
Merci Anthony Fouchard depuis Goma en République démocratique du Congo pour France Culture ce matin. D'ailleurs ce matin, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian remet en question les élections en RDC. Les résultats ne sont pas conformes, ne semblent pas conformes, dit-il, à ce que l'on a pu constater dans le pays ici ou là. Partons maintenant dans un pays voisin de la RDC, le Burundi. Burundi, où Handicap International annonce se retirer du pays. Après 26 ans passés au Burundi, l'association dénonce les nouvelles règles imposées par le président burundais Pierre Nkurunziza. Les ONG internationales présentes dans le pays ont été suspendues par le gouvernement le 1er octobre dernier. Pour reprendre leurs activités, elles doivent forcément se plier à un fichage ethnique, employé donc 60% de Hutus, 40% de Tutsi. Un fichage que refuse Handicap International. Joint par Nadine Epstein, son directeur de l'action humanitaire, s'en explique, Jean-Pierre Delomier.
C'est un principe, l'impartialité gouverne nos décisions. Il est hors de question qu'une organisation comme Handicap International participe du fichage ethnique de ses personnels. Il s'agit d'un plan à 3 ans de rééquilibrage ethnique pour faire en sorte que 60% des postes soient à terme occupés par des Hutus. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que sur aucun des papiers d'identité des Burundais ne figurent des mentions relatives à l'ethnie. Donc ce qui veut dire qu'ici, on pratiquerait vraiment, on démarrerait un fichage en bonne et due forme. Il y a entre 120 et 140 organisations internationales au Burundi. 84 d'entre elles, aujourd'hui, se sont conformées aux souhaits du gouvernement. Parmi les autres, trois d'entre elles, dont Handicap International, ont décidé de ne pas pratiquer le fichage ethnique et donc, de fait, ont choisi de partir. Bien évidemment, c'est avec un infini regret qu'Handicap International a pris la décision de fermer son programme. Nous avons dû licencier les 105 personnels collègues burundais qui travaillait avec nous dans le pays.
Jean-Pierre Delomier qui regrette que les capacités des ONG ne se réduisent au Burundi, et Burundi qui compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Des gaz lacrymogènes autour de l'Arc de Triomphe, des pavés lancés à l'aveugle, des statues détruites. C'était, nous en avions fait largement écho sur France Culture, le 1er décembre dernier à Paris, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Hier, 6 membres de l'ultra-droite française ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour ces violences. Peines d'emprisonnement allant de 4 mois avec sursis à 3 mois ferme. Des peines plus légères que les réquisitions, car il a été difficile, Fiona Mogadam, de prouver l'existence d'une organisation chez les jeunes jugés.
Le tribunal n'a pas retenu l'association de malfaiteurs pour l'ensemble des jeunes. Alors oui, tous ont reconnu faire partie ou avoir fait partie de la mouvance ultranationaliste. Pour certains, des ex du GUD, le groupe Union Défense, organisation étudiante d'extrême droite aujourd'hui dissoute. D'autres sont adhérents au Bastion National, mais sans y exercer de fonction. Le Bastion National, conçu selon l'un de ces jeunes pour venir en aide aux sans-abri français. Pour les services de renseignement, c'est plutôt l'un des groupes extrémistes responsables des violences du 1er décembre dernier. Eux ont nié toute violence et avoir agi en réunion. Ces jeunes, âgés de 20 à 27 ans, pour la plupart étudiants, ont expliqué être venus aux manifestations séparément et ne pas tous se connaître. Un argument qui a convaincu les juges. En revanche, le tribunal retient contre eux les dégradations pour avoir tagué du mobilier urbain avec des slogans hostiles à la police ou pour avoir été photographié avec des projectiles dans les mains lors de cette manifestation. Leurs avocats ont dénoncé un procès surtout politique. Les 6 jeunes hommes écopent de peine de 4 mois de prison avec sursis à 3 mois ferme. C'est moins que les réquisitions du parquet.
Lui attendra son procès en prison. L'ancien boxeur Christophe Détinger, qui avait frappé 2 gendarmes à Paris samedi dernier lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Christophe Détinger a été écroué hier. Il comparaîtra le 13 février prochain pour violence volontaire contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre prises pour cible et les élus de la majorité également. Une 50aine de députés La République En Marche ont été agressés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Entre menaces de mort et permanence dégradée, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale appelle à respecter la République et ses élus. Des élus qui pourraient être mis à contribution pour organiser le grand débat national. Il sera bien lancé mardi prochain grâce à des plateformes numériques et des réunions locales. Mais de l'aveu même du Premier ministre Édouard Philippe, l'organisation est encore assez complexe. Il a évoqué hier la participation des maires. L'Association des maires de France, elle, ne veut pas être co-organisatrice. André Léniel, vice-président de l'AMF et maire socialiste d'Issoudun dans l'Indre, demande à tous ses collègues de s'en tenir au service minimum.
Les maires de France ne se sentent en aucun cas engagés par ce débat et ne sauraient être, à quelque niveau que ce soit, co-organisateurs. Nous n'avons aucune information, mais surtout, ce débat, il est celui de l'État. Il est celui de l'État avec les citoyens. Et nous ne voyons pas en quoi les maires pourraient être engagés dans ce débat qui, en définitive, aurait plutôt pour viser d'associer les élus locaux à l'échec gouvernemental. Nous avons le sentiment que c'est une manœuvre d'enfumage. Bien entendu, chaque maire, en tant que citoyen, fera ce qu'il veut, participera ou ne participera pas, mais en tant que citoyen. Nous ne sommes pas Association des maires de France engagés, et d'ailleurs, nous n'avons pas été sollicités clairement, de quelque nature que ce soit.
André Lengel, il répondait à Frédéric Carbone. La Confédération paysanne, syndicat agricole, s'attaque au géant laitier Lactalis. Après un an d'enquête sur le groupe et sur ses filiales, notamment au Luxembourg, la Confédération paysanne est persuadée d'avoir mis à jour un système frauduleux d'évasion fiscale chez Lactalis. Tous ces éléments ont été transmis hier au parquet national financier. Chez Renault, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude fiscale que le syndicat Sud veut saisir la justice. Il réclame la transparence dans l'affaire qui juge et qui vise le patron du groupe, Carlos Ghosn. Il est toujours, je vous le rappelle, inculpé et incarcéré au Japon pour des soupçons de malversation financière avec le groupe Nissan.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. L'extrême droite andalouse a réussi à trouver un accord avec le parti populateur.
Le parti populaire, Guillaume,
parce que c'était
le
mal écrit.
PP, le parti espagnol,
il y avait marqué.
Parti conservateur, le parti populaire dont on parle régulièrement sur France Culture, obligé de se tourner vers Vox, parti anti-immigration, pour trouver une majorité en Andalousie. Vox s'était fait une place au Parlement andalou il y a un peu plus d'un mois. La majorité donc se dessine, au prix tout de même, Mathieu de Taillac, de quelques concessions.
Les exigences initiales de Vox étaient tellement radicales que l'accord finalement signé entre le PP et Vox semblerait presque raisonnable. Certains y voient une stratégie de négociation. Le fait est que l'extrême droite est parvenue à imposer à la droite quelques-uns des aspects centraux de son programme. L'immigration, par exemple. Certes, il n'y a plus d'objectif d'expulsion chiffré, mais le PP s'interdit par écrit toute mesure pouvant favoriser un effet d'appel et garantit, selon le texte, une immigration légale et respectueuse de notre culture occidentale liée toujours au marché du travail. Fin de citation. Sur l'avortement, Vox impose la mise en place d'un système d'aide aux grossesses non désirées qui leur fournira des alternatives socio-économiques. En matière d'éducation, les parents pourront retirer leurs enfants de toute activité non prévue par le programme scolaire si celle-ci est contraire à leurs convictions personnelles. Question tradition, la tauromachie, la chasse, le flamenco et la semaine sainte seront soutenus par le gouvernement régional. Enfin, la loi actuelle sur l'histoire du franquisme sera abrogée et remplacée par une loi dite de Concorde, dont on ignore tout des contenus. Voilà le prix payé par la droite à l'extrême droite pour gouverner la région. Le PP a également entériné un accord avec Ciudadanos. Les centristes ont soigneusement évité tout contact avec Vox. Ils savent qu'ils mêleront leur voix à celle de l'extrême droite, mais font mine de ne pas être concernés par les mesures accordées entre le PP et Vox.
Donald Trump se rendra dans les prochaines heures à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le président américain défend toujours son projet de mur, ou plutôt désormais de barrière en acier. Les discussions par ailleurs avec les démocrates sont toujours dans l'impasse, le président ayant arrêté de négocier hier sur le budget américain. C'est un procès attendu qui a lieu en Belgique, celui de Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles. 4 personnes avaient été tuées lors de la fusillade le 24 mai 2014. Et à l'aube de son procès, Mehdi Nemmouche nie les faits qui lui sont reprochés. Florence Turme.
Ces deux avocats ont déjà clairement annoncé leur ligne de défense. Ils plaideront l'innocence de Mehdi Nemmouche et Nasser Bandrer, un Marseillais de 30 ans, ancien camarade de cellule d'un passé délinquant, également radicalisé et soupçonné de lui avoir fourni des armes à Molenbeek quelques semaines avant l'attentat de Bruxelles. 6 jours après la tuerie, Mehdi Nemmouche est arrêté en France à la descente d'un autocar à la gare routière de Marseille avec un revolver et une kalachnikov enveloppée d'un tissu frappé du sigle de l'organisation État islamique. Des munitions, mais aussi une casquette, un blouson et une caméra identiques à ceux que porte l'homme filmé par les caméras de surveillance du musée juif. Les images vidéo montrent le tueur abattre froidement 4 personnes avant de prendre tranquillement la fuite, puis de se mettre à courir. Scène glaçante de 82 secondes dans laquelle les enquêteurs voient la marque d'un terroriste aguerri. À l'époque, Mehdi Nemmouche rentre de Syrie où il a combattu dans les rangs djihadistes. Les journalistes français retenus en otage pendant 6 mois en 2013 vont aussi le reconnaître comme leur geôlier, un homme violent qui se livrait à des actes de torture sur les prisonniers. Grand admirateur de Mohamed Merah, le tueur de Toulouse, les 4 otages seront d'ailleurs appelés à témoigner au cours de ce procès. Lors de son arrestation, Mehdi Nemmouche a commencé par nier les faits qui lui étaient reprochés avant de se murer dans le silence. Un silence dont il pourrait sortir au cours des audiences, ses avocats ayant laissé entendre qu'il était impatient de dire sa vérité.
Le procès devrait durer jusqu'à la fin du mois de février. Tintin fête ses 90 ans aujourd'hui. Il est né le 10 janvier 1929 dans les pages d'un quotidien belge, mort avec son créateur Hergé en 1983. Et pourtant, il vit toujours, Jean-Christophe Augier, dans le quotidien de nombreux amateurs.
Tintin, c'est moi. Comme Flaubert avec Madame Bovary, Hergé s'identifiait tellement à son héros et son petit monde qu'il n'était pas question que son personnage lui survive. Des soviets au Picaros, les aventures de Tintin, ce sont définitivement 23 albums, auxquels on ajoutera l'Alfarte dont les crayonnés ont été publiés après la mort du maître. Fin de l'histoire? Peut-être pas, car les enjeux économiques sont importants. S'il se vend encore chaque année entre 3 et 4 millions de livres par an, dont plus d'un million et demi en Chine, le manque de nouveautés se fait sentir. Tintin est désormais un objet patrimonial. Dans les familles françaises, on se repasse la collection de parents à enfants. Casterman, l'éditeur historique du Reporter à la Houppe, aurait bien une idée. Reprendre Tintin et le Thermozéro, un projet qui date de 1960, sur lequel avait travaillé le grand scénariste Greg. Benoît Mouchard, le directeur éditorial de Casterman.
Dans mon esprit, c'est un livre d'archives qui reprend le storyboard complet des 62 pages, les crayonnés. C'est intéressant de montrer aussi un livre auquel Hergé a renoncé et d'expliquer pourquoi il a renoncé.
Encore faut-il convaincre les ayants droit qui tablent plus aujourd'hui sur les films. Le prochain, dont la réalisation est confiée à Peter Jackson, est en cours d'écriture. Ça ne règle pas le problème. Sans nouvel album, Tintin finira par tomber dans le domaine public. Mais ce ne sera pas avant 2053.
Et en 2019, 10 janvier, le ciel restera chargé. Voilà pour la météo du jour. Un ciel chargé, surtout au nord. Un peu de soleil tout de même sur le sud. Comptez moins 7 degrés à Chamonix ce matin, 1 à Strasbourg et Bordeaux, 2 degrés à Paris et Lyon, 6 degrés à Nice.